Nous.
Dans ce journal, nous vous parlerons santé avec ce projet de radiologie à distance et ce cas de dingue au Fénois. Nous irons aussi faire un tour avec nos politiques qui ont décentralisé le Conseil des ministres. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
La radiologie à distance, c'est dans les tuyaux.
C'est le projet qui va être développé dans les prochains mois dans plusieurs établissements du Fénois. Pour ça, la direction de la santé a signé une convention avec Imadis, une société spécialisée qui travaille déjà avec des dizaines d'hôpitaux de métropole et d'outre-mer, qui travaille surtout avec 360 radiologues, un vivier très précieux quand on sait à quel point ces spécialistes manquent cruellement dans les structures publiques en France, comme en Polynésie.
Sur les radiologues, on a un contexte pénurique. On rajoute à ça le contexte de la direction de la santé avec des archipels éloignés, je pense notamment aux Marquises, où il est très difficile de fixer des radiologues, en tout cas de manière pérenne. Et on a donc une offre de soins qui n'est pas optimale, alors qu'on a un plateau technique qui permettrait d'avoir mieux pour la population.
Romain Flory, responsable de la cellule numérique de la direction de la santé, qui rappelle que la téléradiologie est déjà pratiquée au Fénois. C'est le cas entre l'hôpital de Tarlavao, qui n'a pas de radiologue, et celui d'Outuroa, qui en a deux pour les patients. Pas de différence. Un médecin, urgentiste ou autre, les oriente, quoi qu'il arrive, vers les services d'imagerie. Un manipulateur est bien présent pour réaliser la radio ou le scanner. C'est seulement l'analyse des images qui est réalisée à distance avant que le médecin présent sur place reçoive le compte-rendu. Un procédé simple mais qui nécessite tout de même des mises à jour logicielles dans les établissements en question, d'où un calendrier étalé sur plusieurs mois.
La priorité, c'est Teioé, l'hôpital de Teioé, qu'on puisse faire notre première garde de téléradiologie à fin septembre de cette année. La priorité suivante, c'est de pouvoir connecter les trois autres hôpitaux, donc Morea, Tarlavao et Outuroa, sur le premier trimestre 2024. Donc qui dispose également de cet accès à une plateforme de téléradiologie. Et puis après, sur la période, on va dire 2024-2025, c'est également de pouvoir y connecter nos centres médicaux qui disposent d'une table de radiologie pour, pareil, apporter plus, une meilleure prise en charge aux patients dans les îles.
Réduire l'inégalité d'accès aux soins dans les îles, c'est tout l'objectif de cette téléradiologie et du contrat signé avec Imadis. Ça n'est pas la première fois que les autorités de santé se tournent vers la télémédecine. On se souvient notamment des valises déployées dans les îles pour permettre aux dispensaires de mesurer et transmettre les constantes vitales d'un patient à un vrai médecin avant une éventuelle évasane. La limite de cette médecine par numérique interposé, c'est bien sûr la connexion Internet qui doit être bonne pour assurer les échanges techniques.
On a aujourd'hui la chance dans les hôpitaux d'avoir une collection relativement fiable. De ce point de vue-là, la téléradiologie, voire même la télésanté avec ces hôpitaux-là, on est en bonne voie. Le défi, c'est pour toutes les autres structures de la direction de la santé, notamment Tuamotu, Austral et Marquise, dans lesquelles l'accès à Internet est beaucoup plus compliqué. Donc là, on est très en attente des annonces du nouveau président, Mouette Brotherson, sur le déploiement du satellite basse orbite pour pouvoir connecter. Parce que sans ça, il sera difficile de faire de la télésanté avec nos structures éloignées.
Romain Flory, responsable de la cellule numérique de la direction de la santé, au micro de Charlie René, a noté que le CHPF, lui aussi en pénurie grave de radiologues, pourrait à son tour contracter avec la société Imadis.
Face à la dingue des traitements insecticides ce matin à Morea.
Oui, un voyageur arrivé d'Asie du Sud-Est et qui a séjourné à Tahiti puis à Morea a été identifié comme porteur de la dingue. De quoi inquiéter les autorités sanitaires qui rappellent donc que la maladie n'a plus circulé depuis 3 ans au Fénois. Et pour ça, une seule solution, l'élimination rapide des moustiques susceptibles d'avoir piqué le patient avant qu'il puisse transmettre le virus. Raison pour laquelle des traitements insecticides donc sont mis en œuvre par la direction de la santé dans un rayon d'environ 100 mètres autour des lieux où le patient a séjourné. Deux pensions de Morea sont donc concernées et ces désinsectisations débutent aujourd'hui. Elles sont prévues en deux phases. Il y en a donc une ce matin. L'autre aura lieu le mercredi 28 juin au lever du soleil où peu après elles seront menées avec la mairie. Les riverains sont donc invités à laisser leurs portes et fenêtres ouvertes lors des traitements pour que les moustiques qui se cachent dans les maisons soient touchés. Il leur est également conseillé de couvrir leurs aliments, les bassins à poissons et les autres aquariums, mais enfin de prévenir les autorités en cas de présence de ruches à proximité. Le ministère de la Santé en profite pour appeler à la vigilance sur cette maladie. Il convient bien sûr de consulter un médecin dès l'apparition des symptômes suspects, comme de fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures, des nausées ou des éruptions cutanées.
Des grévistes à la CCISM.
Oui, le préavis déposé la semaine dernière par le syndicat Atiaïmoua prend effet ce matin à la Chambre de commerce. Des discussions étaient pourtant programmées hier en fin d'après-midi pour tenter de trouver une solution. Mais le syndicat a quitté la table. Les représentants auraient souhaité discuter directement avec le président de la Chambre, Stéphane Chinloy, qui avait mandaté des élus pour négocier. Un autre rendez-vous a été organisé plus tard dans la soirée, à un peu plus de 22h. Mais là encore, le président sortant de la Chambre n'était pas présent et le syndicat n'a pas souhaité discuter de ces points de revanche. revendications avec les élus et membres de la direction présents. La grève devrait donc perturber ce jeudi une partie des services de la CCISM qui organise en outre un conseil d'administration aujourd'hui, le tout sur fond de préparation des élections consulaires qui auront lieu, vous le savez, le 27 juin.
De la politique aujourd'hui à Talaoï.
L'Assemblée de Polynésie accueille la deuxième séance de la session administrative avec au programme l'examen des comptes administratifs du pays et des comptes de l'Assemblée elle-même, mais aussi des questions au gouvernement. Le Tapura veut notamment parler de TVA sociale et de maîtrise du coût de la vie.
Le gouvernement était à Fa hier.
Moetei Broserson avait promis de délocaliser son conseil des ministres une semaine sur cinq. Et bien la première, c'était donc hier. Le gouvernement n'est pas parti bien loin et il est resté en terrain ami. À Fa, donc, juste avant, ils ont rencontré le conseil municipal, lui aussi majoritairement Tavini, et dont le nouveau président fait d'ailleurs partie. Alors le gouvernement a profité de ce conseil hors les murs pour tracer le cap d'un vaste mouvement de décentralisation. Le pays voudrait à moyen terme confier davantage de compétences et donc de moyens aux communes. Un groupe de travail doit même être mis en place sur le sujet entre représentants du pays, des communes et de l'État. Le prochain conseil des ministres décentralisé doit avoir lieu à Maïna. Ce sera dans 5 semaines.
Un conseil des ministres durant lequel un projet de stade a été évoqué.
Oui, le Tavana de Fa, Oscar Temaru, ne s'est pas fait prier pour exposer les problèmes et projets qui méritent d'être discutés dans sa commune. Il y a les difficultés à rénover les voiries, les défis dans l'aménagement des quartiers, mais aussi la construction d'un grand stade couvert à Ganivé, le complexe actuel de la Estefana, un projet jugé intéressant par le gouvernement, notamment dans l'optique des Jeux du Pacifique de 2027. Moetei Broserson a donc demandé aux services de la commune de se rapprocher de ceux du pays pour avoir une meilleure idée des fonctionnalités du projet, également pour définir l'enveloppe financière nécessaire et surtout la capacité temporelle de mise en œuvre. En clair, le grand stade couvert aura surtout de l'intérêt s'il peut sortir de terre avant les Jeux du Pacifique.
Le collège de Tipperary change de nom.
Oui, le Conseil des ministres a approuvé hier cette mesure qui avait été décidée fin mai par le collège. L'établissement est renommé Louise Théa Carlson. Il a été choisi en hommage à la seule femme mère de Papeete, décédée en 2017. Avant la politique, elle a été institutrice puis directrice d'école dans des établissements scolaires de Tahiti pendant près de 25 ans.
L'accueil Tevaete n'attend plus que son ouverture.
Ce nouveau centre d'accueil pour SDF, situé à Mamao sur le terrain de l'ancien hôpital, sera inauguré le 30 juin avec, comme l'annonce le père Christophe, le premier repas servi dès le lendemain. Hier, il y avait encore des travailleurs présents pour les finitions, des jardiniers pour le terrain autour et surtout des bénévoles qui accueillaient le matériel pour les installations. Père Christophe explique, le projet est à 60% de financement, il manque encore 100 millions, mais alors qui complétera cette somme?
Ceux qui croient à la cause, qui croient en l'homme et qui ont envie de mettre tout en œuvre pour aider nos frères et sœurs de la rue. On a beaucoup de chance, c'est-à-dire que l'Église nous a cautionné, c'est-à-dire qu'elle a avancé l'argent pour qu'on puisse véritablement faire l'ensemble, l'intégralité des travaux. Maintenant, il faut qu'on puisse le rembourser.
Le rembourser car un autre projet est prévenu sur Maïna qui nécessite des financements. C'est le foyer d'accueil des jeunes mamans qui est très vétuste et qu'on doit rénover. Pour Père Christophe, le social est une mission importante de l'Église et il y a donc effectivement beaucoup de projets. Selon ses estimations, 350 personnes vivent actuellement à la rue et ce nouveau bâtiment va sans doute changer les choses car le dernier accueil Tevaete avait 30 ans.
Il avait 30 ans, il avait fait ça d'une façon artisanale, mais bon, soit on dit on a besoin d'un bâtiment, on le construit, et ensuite on n'en fait rien jusqu'à ce qu'on ait le bâtiment, soit on fait, puis ensuite on voit. Et les 30 ans d'expérience nous ont permis de concevoir le bâtiment le plus fonctionnel possible et le plus adapté à la réalité. Donc dans un premier temps surtout, ça va changer au niveau de la dignité des personnes, et on va les recevoir dans un cadre qui soit digne.
Et le premier objectif est de reprendre les activités de l'ancien centre d'accueil, les repas, la laverie, les douches et sanitaires, mais aussi proposer des consultations médicales, psychologiques et gynécologiques pour les femmes. Puis à partir du mois de septembre, un programme de formation sera mis en place avec les professionnels du secteur, mais aussi des bénévoles pour des formations de remise à niveau et d'alphabétisation. Père Christophe est donc un homme heureux de voir ce projet aboutir. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7h30 pour votre revue de presse d'actualité locale.
Merci beaucoup Valdemar, à tout à l'heure.